Retour vers le passé, une émission proposée par tous les élèves de 5e du collège de Gémozac. Suivez les aventures historiques de nos héros sur les routes de Pau.
Enguerrand est à présent un homme de 70 ans et il échange avec Guillaume, Johan et Isabelle en toute sincérité. Ensemble, ils cherchent à identifier leur mission. Ils finissent par être convaincus que c'est Hildegard qui est à l'origine de leur rencontre et de leur quête. Les objets leur permettent de se rendre à l'époque ou au lieu qu'ils indiquent. Ils sont en 1242 et ils vivent la fin de la première guerre de 100 ans.
Il se repose avec sa mère et son épouse dans les appartements qui lui sont affectés lorsqu'il sent une douleur lui tordre le bas-ventre. Il essaye d'abord de n'en rien faire paraître, mais le mal-être s'intensifie par des nausées et des maux de tête. Il pense tout d'abord qu'il a faim, aussi réclame-t-il à manger. Malheureusement, les douleurs s'amplifient. Il ne peut plus le cacher, il se vide tant qu'il finit par être très affaibli. En effet, le roi lui-même n'échappe pas à l'épidémie de dysenterie qui sévit dans les fiefs. Henri a certainement contaminé les puits comme il est coutume en temps de guerre, et l'eau a pourri. Au bout de 2 jours, tous ont peur pour sa vie et Louis réclame l'extrême onction. Le prêtre de Renaud prie à son chevet. Louis ne l'entend pas et délire. Il revoit la conjuration de 1226 quand il n'était alors âgé que de 12 ans. Au décès de son père, il est appelé tout naturellement à régner, mais son jeune âge réveille les idées d'indépendance des seigneurs régionaux. Ils veulent se libérer du joug royal, et rapidement. Ce sera d'autant plus facile que la régence est confiée à la veuve Blanche. Une femme et un enfant, ce ne sont pas de réels ennemis. Il sera aisé de les plier à leur volonté. Ainsi, les petits seigneurs locaux se regroupent sous l'étendard anglais et leur haine est accentuée par le fait que Renaud II est plutôt favorable au clan opposé. Lui qui est le conservateur des trèves nommé par Jean sans terre, il remercie bien mal son bienfaiteur. Pour eux, Renaud est un traître et il doit payer. Ils se réunissent et en discutent. Guillaume de Berneuil, le premier, prend la parole. C'est un homme assez grand et maigre, vêtu d'un chince de lin recouvert d'un bliot de laine coloré et brodé. Par grand froid, il porte un lourd manteau de cuir doublé de fourrure de loup qu'il a lui-même chassé. Intelligent et curieux, il a une mine épanouie. Au milieu de la joue droite, une longue cicatrice rosit sa peau blanche.
Je ne supporte plus les revirements de nos voisins. S'ils continuent, la guerre ne sera plus localisée à Poitiers, mais sur nos terres. Celles-ci seront pillées, dévastées, par sa faute et son égoïsme. Faisons-lui comprendre que nous y opposerons. Je propose d'organiser une fête chez moi. Je verserai dans un verre parsemé de fleurs de lys une potion qui l'empêchera d'agir pendant quelque temps. Assez pour laisser à Hugues de Lusignan garder ses possessions. Qu'en pensez-vous, cher compagnon ?
Moi, je suis d'avis de lui faire peur. Enlevons son fils. Servons-nous-en d'otage.
Un murmure d'approbation s'élève dans la salle pour soutenir Pierre de Ferrières, le plus petit et le plus grincheux du groupe. Guillaume est vexé que son idée ne soit pas retenue.
Ce n'est pas par la peur que nous devons gagner, mais par la ruse.
L'impulsif et dominateur Geoffroy de Rabenne, qui possède 8 communes, dont Gémozac, lui réplique.
La ruse ici n'est pas franche, et moi je suis prêt à l'affronter en face à face pour lui dire ouvertement ce que je pense de ses agissements. Je me rallie à Pierre. Si nous détenons son fils, il sera bien obligé de nous écouter et de parlementer. Nous serons alors à armes égales.
Oui, il veut agir seul. Qu'il comprenne qu'il est isolé au milieu de nous tous et que son intérêt est de nous rassembler, pas de nous diviser.
Il s'assoit à la table en bois pour mettre au point l'intervention. Comment enlever son fils ? Élie Ier propose.
Attendons qu'il aille à la chasse et nous en profiterons pour nous introduire chez lui.
Non, je ne suis pas d'accord. Il doit être chez lui. On entre, on prend son fils et on lui dit que tant qu'il ne nous aura pas écoutés, on gardera son enfant.
Oui, tu as raison. Prendre son fils, c'est juste lui faire peur et lui imposer de réfléchir aux conséquences de ses actes.
Bien parlé, Geoffroy. Guillaume, es-tu d'accord aussi ?
Je me rallie à la majorité, je vous suis.
Quand attaquons-nous ?
Dans 3 jours, après la Pentecôte.
Renaud n'écoute pas ses voisins et donne sa soumission au jeune roi. Louis, dans son délire, revit ce moment où, pour le remercier, il lui donne le fief qui correspond aux communes actuelles de Tesson, Ténac, Préguillac, Cherminiac et Berneuil. Il sait qu'il doit se méfier de ce seigneur versatile, mais la situation géographique et stratégique de la ville lui imposait ce choix. Renaud devient donc le suzerain de ses voisins conjurés et Sainte reste à Hugues de Lusignan. 20 ans plus tard, l'inconstance du Pontois l'a aidé à sauver son trône, il ne regrette donc rien. Louis se calme, mais le seigneur de Pont reste inquiet et fait venir Élie de Mornac, prieur de l'hôpital, pour assister son prieur personnel et celui du roi. Enguerrand, très affecté par la mort imminente du roi de France, décide d'aller prier à l'église. Il est accompagné des 3 collégiens qui ne le quittent plus, enthousiasmés de vivre des moments historiques si importants. Ils ont eu le temps d'apprendre à se connaître. Johan lui a parlé de cette voix qui lui demande de venger l'aigle, mais Enguerrand ne voit pas de qui il s'agit. Pour l'instant, la mission qui est la leur est toujours un mystère. Chemin faisant, tous sont silencieux, tendus par l'imminence de la mauvaise nouvelle. Guillaume, qui est féru d'histoire, n'ose pas révéler que, dans ses souvenirs, Saint-Louis n'est pas mort à Pont. Il chemine à l'ombre de l'imposant rempart qui ceinture la ville, large de près de 3 mètres et haut de 8.
Que l'homme, centre de l'univers, guide vos pas de l'écriture au jardin d'Éden.
Interloqués, Johan et Enguerrand se regardent.
Tu l'as entendu comme moi ?
Oui, Jeanne. Si cette voix est bien Hildegarde, l'homme dont elle part doit être celui du dessin.
Mais en quoi nous mène-t-il à l'écriture ?
Johan n'en dit pas plus, mais lui qui est en vacances n'a pas envie de faire une expression écrite.
Mais de quoi parlez-vous enfin ? Quelle mouche vous pique ? Avez-vous vu la tête que vous faites ?
Mais Johan et Enguerrand ne les entendent pas et ils poursuivent leurs réflexions, les ignorant.
Le dessin a été trouvé à l'hôpital des pèlerins. L'écriture doit vouloir signifier le scriptorium.
Mais oui, tu as raison, Enguerrand, allons-y. Et l'Éden est le jardin médicinal.
Vous pouvez nous expliquer, là, ce qui vous prend ?
La voix nous a parlé à tous les deux. Elle nous dit d'aller où Hildegarde a déposé son dessin.
Guillaume se renfrogne. Il marmonne.
C'est pas Jeanne, c'est Jeanne.
Franchement, chacun ses qualités. Et moi, ce qui me parle, c'est ta gentillesse.
Isabelle lui prend le bras. Elle s'arrête net.
Eh hey, mais, au fait, du coup, Johan, c'est toi le révélateur de l'invisible alors, puisque tu dis ce que les autres ne voient ou n'entendent pas. Mais lequel de nous deux est le sceau ou la lumière ?
Moi, à mon avis, je suis la lumière, puisque c'est moi qui résous les énigmes latines ou façon parfoura. Et Johan, je le prenais pour un sceau, mais en 3 lettres. Allez, je rigole. Et comme dit notre prof de français, elle était facile. Je ne pouvais pas rater l'occasion de la placer quand même. Ça m'étonne même pas que tu l'aies pas fait avant moi, frère.
Ok, je suis le sceau et le révélateur. Mais toi, tu es loin d'être une lumière, Guigui.
Ils rient tous les 3, heureux une fois de plus d'être ensemble. Puis Guillaume ose dire.
Pour la lumière, ça peut être aussi Isa. Avec ses cheveux blonds, elle est notre soleil.
Cette dernière rougit, toute fière du compliment, et Johan sent son cœur se serrer. Sur ces plaisanteries où Enguerrand se sent de trop, mais contaminé par leur jeunesse et leur insouciance, et donc ragaillardi, ils arrivent tous les 4 à l'hôpital. Ils se rendent directement au scriptorium. Là, un moine copiste est penché sur une enluminure. Il achève le dessin d'Hildegarde.
Dieu vous garde, mon frère. Je profite de cette lumière qui vient d'arriver en même temps que vous pour achever les bordures d'ocre. La 3e vision d'Hildegarde, du Liber Divinorum Operum. Le seul document qu'elle nous ait légué à nous, misérables moines, qui l'avons accueilli peu avant sa mort. Mais quelle théologienne ! Depuis que j'en ai commencé la copie, je prie chaque jour le ciel pour la remercier de nous l'avoir offert, et surtout pour me féliciter de sa découverte, car elle l'avait bien caché. Seul un cœur pur pouvait le trouver. Vous voyez, la lumière s'est déposée sur mon ouvrage, à l'endroit précis du clou planté dans le pied de notre Christ rédempteur. Mais d'ailleurs, chevalier, n'est-ce pas vous qui êtes à la source de cette surprise divine ?
Enguerrand se penche et regarde, mais il suit surtout le chemin de la lumière. Il n'est pas dans la direction du jardin, mais éclaire un chevalet posé dans un coin assez sombre.
Dieu est notre guide.
Risque Enguerrand au cas où le moine aurait un message à lui transmettre, et surtout pour éviter de lui répondre. Il se signe devant la sainte image.
Il règne sur l'Éden et sur les hommes. Mon sang est entaché et je ne prétends pas avoir le cœur pur. Mais je fais tout pour m'en approcher et être digne de l'amour que le Christ nous donne. C'est bien moi, mon frère, qui l'ai trouvé. Mais le mérite n'en revient qu'au hasard et à la chance.
Il évite le regard rond des 3 amis qui vont de surprise en surprise. Enguerrand ne leur avait pas dit. Mais à présent, ils savent qu'il est réellement leur ami et ne doutent plus de lui. ils le connaissent suffisamment pour savoir que c'est la modestie et non la perfidie qui l'a fait taire.
Le chemin spirituel doit nous mener à l'Éden, et j'espère qu'il en sera ainsi pour vous, mon frère. Vous semblez être un homme bon. Suivez votre cœur, c'est la voie du Seigneur qui vous met sur le bon chemin.
Je suis sa lumière le plus possible.
Enguerrand marcha alors à pas lents vers le chevalet pour ne pas déranger davantage le copiste. Au fur et à mesure de sa progression, il constate que le livre posé dessus est éclairé par une lumière de plus en plus brillante. Il accède enfin au feuillet par cheminée.
Vous avez bien dit que c'est le seul document qu'il de garde nous ait légué ?
Oui, pourquoi ?
Parce que ce document est dans un livre et que nous n'en avons qu'une page. Je me faisais juste cette réflexion.
En fait, Enguerrand ment. À un moine en plus. Lui qui vient de reconnaître qu'il a le cœur pur, lui, le pieux, ment. Mais cacher une vérité, est-ce mentir ? Car ce qu'il tait, c'est ce qu'il lit sur le chevalet. Physica. Ça, c'est le titre. L'auteur ? Hildegard de Bingen. Avec mille précautions, il prend les feuillets, les cache sous son bliot et sort. Il se dirige vers le jardin, suivi par ses jeunes compagnons. Sous les arcades, près du thym et de la sauge, il déplie le rouleau et le décrypte.
C'est un traité de santé. Comment soigner par les plantes et les minéraux ?
C'est pour ça qu'elle nous a envoyé ici ?
La dysenterie.
Mais oui, tu as raison Isabelle, pour soigner Louis, bien sûr.
Il lise les feuilles jusqu'à temps de trouver la réponse. Puis il cherche dans le jardin les éléments nécessaires. Il en manque un très important, mais Enguerrand n'est pas inquiet, car il sait où se le procurer. Il demande aux moines l'autorisation d'utiliser leur cuisine. Comme ils sont discrets, ils acceptent sans poser de questions et le vieux chevalier peut préparer sa potion en toute tranquillité, aidé de trois commis. Il la met dans une petite outre qu'il a toujours accrochée à sa ceinture et retourne avec ses amis au château. Il se rend aussitôt auprès du roi qui ne respire plus. Élie de Mornac demande aux femmes d'aller chercher de quoi préparer sa toilette et il s'éloigne lui-même pour chercher des bougies et des cendres. Enguerrand en profite pour soulever la tête de Louis et lui murmure.
Sire, permettez que je vous donne ce bouillon d'épeautre et de fenouil. C'est le remède que notre bonne abbesse Hildegarde a concocté pour vous. Buvez-le, je vous en conjure.
Ce faisant, il verse le liquide que le roi boit, car il n'est pas mort, mais si affaibli que c'est à s'y méprendre. Encouragé par ce miracle, le chevalier lui explique qu'il va devoir prendre dans sa bouche une émeraude et l'humidifier avec sa salive. Il sort alors de sa bourse la pierre qu'il a ramenée de Jérusalem et l'offre au roi pour son salut. Le malade s'exécute docilement. Quand les prêtres et les femmes reviennent, elles trouvent Louis, seul, les yeux ouverts, souriant faiblement, mais le visage apaisé.
J'ai prié Dieu et lui ai promis de faire une croisade s'il me sauvait. Je lui dois bien ce périple. Mais qui aidait de me faire saliver avec une émeraude ?
Personne ne comprend et le croit sous l'emprise encore de la maladie. Il prie pour le salut de son âme et pour sa guérison miraculeuse. Les trois collégiens, eux, rient à gorge déployée, soulagés de l'épilogue de cette aventure. Enguerrand, quant à lui, est plus soucieux. Il n'a pas traduit la dernière phrase d'Hildegarde à ses amis pour ne pas les alarmer.
Le mal va revenir, mais une seule fois le pourrait guérir.
Louis succombera-t-il à une seconde dysenterie ? Enguerrand baisse les épaules sous le poids de cette révélation. Il comprend en plus que ce n'est toujours pas la mission qu'ils doivent accomplir. Si le vieux chevalier reste inquiet, le château est en liesse et Renaud ne tarde pas pour déclarer qu'une fête va être organisée. Il demande à son intendant de la préparer, mais il fait le tour des corps de métier. Le charpentier Armand est en train de construire des tribunes pour le tournoi entre les chevaliers Grégoire et Childebert. Il construit les poteaux en premier, pour retenir les lattes de bois où seront posés les bancs des spectateurs. Ensuite, il s'occupe des barrières qui sépareront les concurrents.
Armand, je veux que ces barrières soient aussi belles que du diamant. Rajoute des formes qui me représentent sur les marches menant aux tribunes.
D'accord, monseigneur.
Armand fait ce que son suzerain lui demande, mais il se coupe à la cinquième marche.
Aïe !
Que se passe-t-il ?
Je me suis coupé.
Continue le travail, sinon tu n'auras pas tes libertés.
Mais...
Ne proteste pas.
Le charpentier reprend donc son travail à contre-cœur pour ne pas être privé de ses droits. À la fin de la journée, il n'a plus qu'à graver deux fleurs de lys sur la barrière pour donner de la splendeur à côté des ponts.
J'ai enfin fini.
Très bien, le tournoi peut être annoncé pour demain.
Le héros fait donc le tour de la ville et annonce qu'en l'honneur de la signature du traité et de la guérison du roi, une grande fête va débuter le lendemain par l'adoubement de plusieurs écuyers, puis par des tournois, pour se poursuivre par un concours poétique autour d'un banquet. Enguerrand demande aux collégiens de venir avec lui assister à cette cérémonie, puisqu'il n'était pas présent à la sienne.
C'est un moment crucial dans notre vie. Cela marque l'étape de notre entrée dans la vie d'homme. Nous devenons indépendants et devons assez rapidement posséder notre propre château et nous marier. J'ai la chance d'avoir des parents qui en possèdent plusieurs. Aussi, ils m'en ont donné un, celui de Beaumont. Surtout, je suis l'aîné des trois garçons.
À quel âge as-tu été adoubé, Enguerrand ?
À 15 ans.
Et à quel âge t'es-tu marié ?
À 16. Et j'ai eu un garçon et deux filles qui ont eux-mêmes des enfants. J'ai été très heureux avec ma femme, qui est morte il y a 3 ans. Je n'ai pas à me plaindre, j'ai une vie riche et bien remplie. J'espère une lignée nombreuse et vigoureuse, et surtout loyale. C'est important de tenir ses paroles, les enfants. Un chevalier fait vœu d'être au service de Dieu et de défendre les plus faibles. Il doit respecter cela, car il jure sur la Bible. Ne soyez jamais traite, vous m'entendez ? Car je serai très déçu.
T'inquiète, mais cela a l'air de te tenir à cœur.
Mon grand-père était un traître. Il a entaché notre sang et notre honneur. J'ai beau agir depuis tout petit pour laver cette honte, et reste en moi-même si tout s'accorde pour dire que je l'ai effacé. Il est difficile de vivre avec le fardeau qu'un ancêtre nous a légué.
Ne t'en fais pas, Enguerrand. Nous te promettons de bien agir tout au long de notre vie.
Oui, je n'aime pas mentir. Cela sera facile à tenir.
Et moi, je le jure aussi.
Dieu vous entende, les enfants, et restez aussi bons amis que vous l'êtes.
Il se sourit. Dorénavant, il compte un ami de plus dans leur groupe.
Miraculé, Saint-Louis assiste au banquet de la paix. Qui seront les gagnants des tournois et autres concours ?
Isabelle, Guillaume et Johan vous disent à demain même heure
pour la suite de Retour vers le passé sur Radio Pont.